Aujourd'hui, c'est avec une vive émotion que je peux enfin parler à l'antenne.
Une femme, c'est pas juste un truc qui sourit et qui a la peau douce. Une femme, ça bouge, ça pense, ça évolue.
Sorcière.
Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça, franchement? Pas comme ça que tu as trouvé quelqu'un, je te le dis tout de suite.
Quand elle a son poum poum shot, et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue. Why? Quand elle whine dans son shot, et y'a pas que chez toi qu'elle a causé un choc, qu'elle est trop belle. S'il est trop maligne pour toi, tcho, dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas, laisse courir à boire, car ça devait finir comme ça.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission
Sorcière.
Voilà, c'est reparti pour une année radiophonique. Vous nous avez manqué, chers auditeurs, et avouez-le, vous aussi, vous aviez hâte comme nous.
So exciting.
Oh my god. We are back, babies. On a compté et aujourd'hui on entame notre 4e saison.
Wow.
Déjà 3 ans que vous nous écoutez sur les ondes. On va dépasser l'audience de France Inter. Vos sorcières préférées sont donc remontées sur leur balai. Cette année, notre animatrice Stéphanie a promu toute son équipe. Et ouais, même moi. Elle a cédé sa place à ses chroniqueuses pour elle-même en devenir une. Sororité power. Alors, pour ouvrir le bal, c'est moi, Cécile, qui vais animer cette première émission. Chaque mois, une sorcière différente animera à son tour. On vous demandera donc, chers auditeurs, de l'indulgence. On a confiance en vous, car on sait déjà qu'on a le meilleur public. La crème de la crème des oreilles bien récurées et disposée à écouter nos histoires, nos découvertes, nos coups de gueule, nos invités, nos points de vue sur la société et bien entendu nos blagues. La rentrée scolaire est déjà faite et ce soir dans le studio c'est la nôtre. Alors, comme à l'école, je vais faire l'appel. Ingrid,
oui,
présente, très bien. L'étudiante qui finit d'écrire à l'arrache sur le coin de la table son travail 27 secondes avant la sonnerie, mais qui obtient toujours de bons résultats. Élève talentueuse qui semble discrète, mais attention à ne pas faire de vagues comme Guillaume Meurice. Tu te reconnais, Ingrid ?
C'est parfait.
Morgane, oui. Étudiante au rire cristallin, sensible et attentive à ses camarades. La bonne élève qui s'investit dans toutes les matières, de la technique à la chronique musicale ou cinéma. Déléguée de classe, Morgane est également très appréciée du corps enseignant, sans être susboule. Ça te parle, Morgane ?
J'adore.
Anna, étudiante ayant des facilités d'apprentissage, l'élève populaire parmi ses camarades et bien au-delà, l'équipe pédagogique soupçonne néanmoins un trouble spatio-temporel. Cet élève dissipé ne sait apparemment pas distinguer si elle se trouve dans le fond de la classe ou à ambiancer une soirée devant ses platines. À surveiller. Tu te reconnais ?
C'est parfait.
Stéphanie, moteur de la classe quand elle n'arrive pas après la sonnerie. Étudiante active dans les travaux de groupe, appréciée par ses camarades. Élève agréable et vive d'esprit. Attention néanmoins à ne pas se disperser.
Oui.
Tu te retrouves ?
Bah, pour pas trop me disperser, je vous ai laissé le micro cette année.
Oh, merci. Bon, les filles, vous reconnaissez dans les portraits ?
J'ai quand même redoublé 2 fois. Hein, pour
D'accord.
Mais bon,
moment confidence, voilà. Ça se voit pas, ma petite déléguée.
Ça donne vraiment envie de retourner au lycée.
Je serai ta prof.
Oh là là, je serai encore pire.
Alors, les filles, de quoi allons-nous parler ce soir ? Toi, Ingrid, quelle est ta thématique ?
Je vais vous parler des monstres.
Waouh, oh, ça fait froid dans le dos. Morgane, toi.
Je vais vous parler d'un film avec des femmes badass.
Des femmes badass.
Suspense.
C'est génial. Et toi, Anna, tu nous parles de quoi?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'une radio afghane qui s'appelle Radio Begum.
Oh, je peux plus attendre. Parle-nous, maintenant.
Maintenant?
Ouais.
Allez, j'y vais. Alors, pour commencer, je vais dédier cette chronique à Chloé. Chloé qui nous a gentiment partagé ce podcast de l'émission Les Pieds sur Terre afin de présenter Radio Begum. Cette radio a été créée et gérée par des femmes afghanes pour les femmes afghanes. Alors merci Chloé, tu m'as offert un super sujet de rentrée des sorcières. Après cette écoute très intéressante de France Culture, je suis allée fouiner pour en savoir un petit peu plus sur cette radio Begum. Begum signifie en persan les reines, les femmes de pouvoir. Radio Begum, la voix des reines. Mais où, quand et comment cette radio a pu voir le jour sous un régime taliban? Et comment font-elles pour s'organiser? Amida Aman, qui est une grande reporter afghane, fonde en 2021 la Begum Organization for Women. Cette association est lancée le 8 mars 2021, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. À ce moment précis de l'histoire, nous sommes dans un contexte de possible retour au pouvoir des talibans. Ils ne sont pas encore arrivés. Radio Begum commence à émettre dans plusieurs provinces afghanes. Et quelques semaines plus tard, comme vous le savez, malheureusement, les talibans prennent le pouvoir. Voilà, nous ne sommes pas sans savoir que depuis cette date, l'Afghanistan est devenu le territoire le plus répressif du monde pour les femmes. Elles sont désormais exclues du monde politique, du monde du travail et de l'école. Même les salons de beauté ont été fermés, trop risqués de laisser aux femmes un refuge où se retrouver. Un seul refuge qui subsiste encore malgré la censure, c'est Radio Begum. Cette radio est devenue une bouffée d'oxygène, une lueur d'espoir pour des milliers de filles, jeunes filles et femmes cloîtrées chez elles. Je vous mets un petit extrait de l'ambiance de Radio Begum.
Paratlunki.
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 Ça donne plutôt envie. Radio Begum, c'est une trentaine d'animatrices et de journalistes qui fournissent un travail incroyable grâce à une capacité d'adaptation incroyable. Car évidemment, de nouvelles restrictions tombent chaque mois, les unes après les autres, et elles ne sont pas des moindres. Il leur est donc interdit de diffuser de la musique. On parle de musique actuelle, évidemment, pour les intros des podcasts, pour l'instant, elles ont encore le droit. De parler de politique, évidemment, impossible. Accord passé avec les talibans. Hein. Elles sont obligées de raccrocher dès qu'un homme appelle. Donc, on ne crée pas de connivence entre les hommes et les femmes, notamment pour les émissions de divertissement, entre guillemets, même s'il n'y en a pas beaucoup. Après, les hommes sont pour le moment toujours autorisés à participer très légèrement pour les sujets de société, l'éducation, la religion, la psychologie. Voilà, ce genre de choses. Et surtout, surtout, interdiction de rire. Oui, on ne s'amuse pas, on ne rit pas. Voilà. Alors, pour continuer à pouvoir toucher et atteindre les femmes les plus isolées d'Afghanistan, on obéit et on s'adapte, car cette radio nationale est tellement utile et nécessaire qu'elles ne peuvent pas risquer la censure des talibans. Je vais vous passer un petit extrait du podcast Des Pieds sur Terre où on entend Amida Aman, donc la fondatrice de cette émission de radio, qui habite en France désormais, qui fait des allers-retours réguliers entre la France et l'Afghanistan pour aller du coup rencontrer et passer du temps avec les journalistes et les chroniqueuses de Radio Begum.
Bonjour Sonia, cela fait 2 jours maintenant que je suis à Kaboul. Ces 2 derniers jours, j'ai passé la plupart de mon temps au bureau à parler à toute mon équipe, à toutes ces jeunes femmes qui semblent extrêmement inquiètes depuis l'annonce de cette nouvelle loi qui ne fait que confirmer le peu d'espace qu'on leur accorde. Et chacune est venue à son tour un peu me raconter ce qu'elle endurait ou ce qui lui est arrivé. Et mon message était de ne pas être inquiète, que pour l'instant, il n'y a pas de signe qui nous dise que, par exemple, les médias, notre radio va être interrompue. J'admets que c'est quelque chose qui les inquiète énormément, de savoir qu'est-ce qui va se passer si tout à coup, ils demandent aux femmes de ne plus apparaître ni à l'écran, ni sur les ondes des radios. Toutes ces femmes, elles sont environ une trentaine à travailler pour Radio Brigham. C'est les seuls salaires des familles, généralement, et c'est les seuls qui subviennent aux besoins de la famille. Et par conséquent, elles sont très inquiètes pour l'avenir. Et vous imaginez bien que pour moi, c'est très compliqué de leur assurer que les choses vont bien aller, mais j'ai pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ?
Donc là, Hamida Hamann, donc la fondatrice de la radio, explique bien que les chroniqueuses et les journalistes qui travaillent là-bas, c'est leur but, c'est leur métier, c'est l'essence même de cette émission de radio, de cette radio, c'est de faire garder de l'espoir en fait à toutes les femmes qui écoutent, donc elles-mêmes de continuer à y croire malgré tout ça. Et du coup, Radio Begum a un super site. Donc, vous allez sur www.begum.fm et vous avez un site. Vous pouvez écouter. Bon, là, c'est en persan, hein, et donc c'est pas complètement compréhensible pour tout le monde. Mais vous avez des podcasts sur la santé. Vous avez des podcasts sur la résilience. Vous avez des livres à écouter et vous avez surtout 6 heures de cours par jour. Parce que les filles et les jeunes filles sont interdites d'aller à l'école, mais l'éducation n'a pas été encore interdite. Donc, histoire, géographie, éducation civique, théologie, anglais, mais aussi des consultations en ligne avec des gynécologues, des psychologues. On est dans un pays où c'est clairement l'aide humanitaire qui fait le boulot au niveau médical et psychologique. Et puis, comme dans tous les pays où l'isolement est présent, on a une grosse détresse psychique. 80% des suicides actuels, ce sont des suicides de femmes. Et du coup, le soutien vraiment qu'amène cette radio, il est vital. J'ai pu écouter quelques podcasts où on entend du coup les professionnels qui discutent avec les personnes qui appellent, et hyper régulièrement c'est comment je fais pour tenir encore le coup, je peux pas sortir de chez moi, je peux rien faire, j'ai voilà. Et du coup elles ont malgré cette épée de Damoclès qu'elles ont au-dessus de la tête, elles émettent de plus en plus et elles permettent même aux écoles secrètes, donc les paysannes qui habitent dans les montagnes vraiment très très reculées, se sont organisées en écoles secrètes avec des enseignantes, des personnes qui sont improvisées enseignantes, qui mettent leur petit poste de radio minuscule qui ne fonctionne pas toujours très bien avec le début des cours de certaines classes et apprennent du coup à faire cours. En étant flippé tous les jours que les talibans débarquent et ferment les écoles, etc. Donc c'est vraiment incroyable. En regardant le documentaire d'Arte intitulé Radio Begum, la voix des résistantes, on se rend compte que ces femmes qui courent un risque chaque jour en adaptant leur discours, elles réussissent tout de même à garder un discours engagé et féministe. Et ça, c'est très très fort. Hamida Hamann, la fondatrice, explique que pour parler du droit des femmes, par exemple, elles utilisent le prisme de l'islam comme paravent, parce qu'il est très important que les femmes sachent ce qui se dit sur leurs droits dans l'islam pour mieux pouvoir se défendre. C'est quand même la meilleure argumentation et la plus imparable. En tout cas, nous les sorcières, nous l'autre radio, on ne peut qu'être touchés par ces initiatives. Je trouvais important d'en parler. C'est pas le sujet le plus fun que j'aurais fait, comme vous l'aurez remarqué. Mais c'est important.
T'as pas mis de blague dans cette chronique.
C'est important de se rendre compte de la chance qu'on a, de la liberté qu'on a, et puis rions bordel, et rions et pensons à toutes ces résistances. Et toutes ces résistances, sachez que vous avez tout notre soutien, tout notre respect et toute notre admiration. Et comme vos voisines qui gueulent, femme, vie, liberté. Voilà, vous êtes l'avenir et vous êtes les reines.
Toi, tu as grandi sans rêver de sirène. Ton père te mettait des gifles et tu pensais je t'aime. Toi, tu as toujours refusé qu'on t'apprivoise. Et d'ailleurs, on dit de toi que tu n'es pas courtoise. Toi, tu t'es occupée de tous tes frères et sœurs. De ta mère aussi, d'ailleurs, quand elle était en pleurs. Toi, tu as aimé un homme passionnément. Mais tu ne sais pas pourquoi il est parti comme le vent. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Toi tu voulais être musicienne. Ça fait des années qu'à l'école tu t'entraînes. Lui il t'a dit, je suis désolée, Mais à deux c'est malheureux, on ne peut pas plonger. Alors tu t'es arrêté et tu l'as oublié. Mais tout au fond de toi la musique tu l'as gardée. Et parfois tu l'entends tout bas te chanter. Un air que la nuit en secret tu vas murmurer. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine. Femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine. Depuis toujours, tu sens que c'est un décorum. Toi, tu as décidé que pour être libre, tu n'aurais pas d'enfant, ce serait ton équilibre. Et pour toutes celles dont les complexes vies ne seront racontées qu'autour d'un verre à minuit, que les voix s'élèvent, qu'on prenne les arènes, et que dans la nuit s'élève le chant des sirènes. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. Vous êtes souveraine.
Waouh! Merci pour cette chanson de Clara Isée, femme souveraine. Je trouve que ça colle carrément. Et surtout, Anna, bravo, parce que ce soir, quand même, tu chroniques, tu fais la technique, tu insères du son au milieu.
C'est le gros bordel.
En tout cas, tu gères vraiment super bien. Et c'est très, très beau de te faire ici le relais de Radio Bégam, quoi. Enfin, franchement, moi, je suis hyper fière d'animer ce soir et d'avoir ce genre de témoignage. On est là, quoi.
Elles sont dingues, hein.
C'est fou.
Elles sont dingues, c'est dingue.
C'est un ouais. Courage. Fou.
Alors, c'est vrai que toi et Chloé, vous m'avez donné envie d'écouter le podcast sur des pieds sur terre et de France Culture. Et c'est vrai que c'est un projet qui est fou, quoi. On est sous le régime des talibans et il y a des femmes qui ont leur propre radio. Ça n'existe pas dans d'autres pays, une radio, il n'y a que des femmes. Ouais. Et puis d'ailleurs, heureusement, parce que ça veut dire qu'il y a une mixité, qu'on a le droit d'être ensemble, etc. Mais c'est assez dingue, ouais.
Alors, de toute façon, elles ne peuvent pas accueillir d'hommes parce qu'elles sont dans un immeuble, en fait, où leur studio est complètement calfeutré. Elles ont mis des rideaux partout, des draps partout pour que les hommes qui passent éventuellement n'aient pas du tout accès ni visuellement, ni
auditivement,
merci, à tout ça. Et ouais, on les voit dans le documentaire d'Arte, La Voix des Résistantes, où elles passent beaucoup de temps ensemble à discuter, parce qu'en fait, il se passe tout le temps plein de trucs. Donc, elles ont fait un reportage, elles sont allées sur place, elles ont fait des chroniques, mais bam, elles n'ont pas le droit de la passer le lendemain, en fait, parce qu'il y a une nouvelle interdiction qui fait qu'on ne peut pas se permettre.
Il y a quand même, il faut le dire, en Afghanistan. Alors moi, j'ai un petit lien avec l'Afghanistan, parce que voilà, ça fait partie de mon histoire depuis les 5 dernières années. Mais, et d'ailleurs, je vous apprendrai que Chimega, ça veut dire qu'est-ce qu'elle a dit en persan. Mais ouais, c'est un truc de dingue ce qui se passe en Afghanistan. On est en train d'interdire aux femmes de vivre. Et alors, les hommes n'ont pas une plus belle vie, hein. Je pense que ça doit être un pays où c'est très difficile, où pour pouvoir vivre un peu, il faut avoir une kalachnikov et interdire tout aux autres.
Ah, beau, complètement.
Ouais. Mais oui, on est en train on leur a interdit petit à petit d'aller dans les écoles, mais pas que, c'est-à-dire aussi d'aller dans les centres de soins et paraître beauté, de se montrer, de rire.
Enfin, elles n'ont pas le droit de rire.
Elles sont enfermées.
De rire, quoi. Ouais, enfin, c'est fou.
Ni les hommes, d'ailleurs, je pense, mais en tout cas.
Pas au vu de tout le monde, en tout cas.
Ouais, et c'est des femmes qu'on a enfermées dans leur maison. Et je voyais un reportage d'il y a déjà quelques années qui disait que plus de 90% des femmes afghanes ont des troubles psychologiques. Mais parce que enfermer n'importe quelle personne dans ce genre de conditions et dans la peur, forcément.
Du coup, dans les petites alternatives, les mini-solutions, les micro-solutions qu'elles ont, qu'elles peuvent proposer, en tout cas la radio, c'est le peu d'endroits où vous pouvez aller vous balader, prendre l'air, faites-le. Et à la fin de ce reportage sur Arte, là, elles sont deux chroniqueuses à se balader et à, c'est le coucher du soleil, elles ont les montagnes en face et elles se disent, bah bordel, c'est quand même super beau et ça, bah, pour l'instant, ils vont pas pouvoir nous l'enlever.
Oui, ils pourront pas leur enlever les couchers de soleil.
Voilà.
C'est une bonne chose.
Enfin, voilà, c'est fou, des frissons.
Ouais. Non, c'est très fort. D'ailleurs, il y a les deux autres podcasts, Inside Kaboul et Outside Kaboul de France Inter, qui racontent... l'échappée de... Finalement, c'est ça, de deux Afghanes d'Afghanistan au moment de la prise des talibans au pouvoir.
Mais c'est très courageux. En fait, tu disais que Hamida Aman, la fondatrice de la radio, donc vit en France et retourne régulièrement à Kaboul.
Après, c'est une dingue. Hein. Quand tu l'entends parler à la radio, elle est genre elle est assise dans l'avion à côté d'un mec. Elle lui fait les gros yeux parce que elle se fait engueuler parce qu'elle est assise à côté de la sortie de secours. Les femmes n'ont pas le droit d'être à côté de la sortie de secours. Ah. Il dit vous allez nous l'interdire ça aussi. Bon, du coup le stewart il se tait, il se barre et puis voilà. Pour le moment c'est encore comme ça. Après il y a une hypocrisie qui est dingue parce que ils n'ont pas interdit les autoradios mais ils ont interdit la musique. Donc les chauffeurs de taxi baissent juste avant d'arriver au checkpoint musique et leur mettent après. Pour les costumes qu'ils sont obligés de porter c'est la même chose.
Oui. Et à l'aéroport il y a un quota de femmes en fait pour avoir une visibilité à l'international. Voilà. Ils ont mis un quota de femmes très important sur l'aéroport pour montrer une mixité apparente en surface et qui est complètement fausse dans le reste du pays.
Exactement.
Ouais. J'ai l'impression d'être dans la savante écarlate quoi. C'est la réalité.
Ah, oui. 2024 bienvenue.
J'ai l'impression d'être dans une série où tout est fou, où il y a Gilead, là, ce pays-là. Oh, c'est fou.
Ouais.
Il faut que tu nous chroniques un jour, là.
C'est vrai, mais tellement. Allez.
Eh bien, si personne n'a... Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur cette thématique qui nous touche toutes, finalement.
Sinon, on peut s'écouter un petit son un peu plus fun.
Ouais, s'il te plaît.
Avant de passer à Ingrid.
Ouais, ce serait chouette. Allez, merci, Anna. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont? Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons? Und dass sowas von sowas kommt.
nichts für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auf keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn.
Cette chanson a vraiment fait du bien. C'était super. Vous avez compris, vous parlez allemand ?
Yeah, yeah,
yeah, Arso.
Artung.
Danke schön. Bon, bah, c'est le moment d'aller au pays des monstres.
Ah bah, en même temps, parlant allemand, il y a un beau quota de monstres en Allemagne. Enfin, il y avait, pardon.
Il y a pas d'amalgame, oh, pas d'amalgame.
Non, il n'y a plus de nazis aujourd'hui, en 2024, dans le monde, ça n'existe plus.
Il en reste, mais ça, c'est pas forcément oui, c'est lié qu'à l'Allemagne.
La
croix,
ils reprennent un peu de poil de la bête.
D'ailleurs, ta bête, nous...
Pourquoi on a des nazis qui nous écoutent ?
Bah, il y en a beaucoup qui votent RN, mais ça...
Bon, bah, nous écoutez pas, vous. T'es caché.
J'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle. Eh bien, merci pour cette belle transition. Moi, j'ai trouvé belle.
Mayday.
On y va pour mon petit boulga d'actualité.
Ouais,
redis-le, le boulgi boulga.
Bah, j'ai eu du mal déjà.
Oh, c'était boulgi boulga. Bon, tu nous parles de monstres, Ingrid.
Bah oui.
Oh là là, on t'écoute.
Bah, moi, j'ai cru qu'on n'allait plus avoir de boulot, là, les sorcières. J'ai eu peur. Je me suis dit, avec toutes ces affaires, les gens, ils vont quand même comprendre qu'il y a un problème. Bah non, a priori c'était pas suffisant. Nous les féministes, on a encore du boulot. Je vais pouvoir donc chroniquer.
Ouais.
Le sujet s'est offert à moi sur un plateau avec cette actualité florissante. Août septembre, c'était attention, l'abbé Pierre, le procès Mazan, un gouvernement éclaté. Oui, je parle comme les jeunes maintenant. Un président et des chefs de parti qui jouent à une guerre de zizi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui transcende tout ça ? Qu'est-ce qui pourrait faire un point de convergence ? Et comme ça fait longtemps que je voulais parler de la figure du monstre, bah ça tombe bien. C'est une figure qu'ont beaucoup travaillé les féministes. Je défonce des portes ouvertes. Mais là, l'actualité va bien m'aider à illustrer mon propos. On peut voir plein d'exemples de figures de monstres masculins dans notre culture. C'est souvent traité de façon ambivalente, mêlant danger, désir, violence... Je pense par exemple au film Dracula de Coppola, qui a bercé mon adolescence. Moi, j'avais trop envie d'être Winona Ryder. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je pense aux figures des monstres de la mythologie grecque, mi-homme, mi-bête, qui inspirent peur et admiration. Et on peut juste penser à la Belle et la Bête. La Belle est mariée de force à la Bête, qui finalement s'avérera ne pas être une bête et dont elle tombe amoureuse. Ça nous dit quoi, ce conte ? On peut être marié à un homme qui a toutes les apparences d'un monstre. Les comportements violents sont acceptables puisqu'ils cachent en fait un petit cœur qui bat. Une femme peut être amoureuse d'un être monstrueux puisqu'un jour il ne le sera plus. C'est donc ça l'amour dans notre monde. À l'intérieur de chaque homme, même le pire, il y a un prince charmant. C'est ce qu'on nous a appris. Il y a beaucoup d'analyses féministes qui font le lien entre ça et la banalisation de la violence. De la soumission que doit accepter chaque femme, plus ou moins en fonction de là où elle est née. Ça, c'est le système de nomination. Donc là, le monstre, en apparence, n'en est pas un. On lui trouve des excuses, on minimise ses comportements. Il y a donc une annulation de la figure du monstre. Mais de l'autre côté du spectre de la figure du monstre, il y a le monstre, écrit en majuscule. Parce qu'il y a de la violence tellement énorme que la société patriarcale elle-même ne peut pas l'absorber, la banaliser ou la cacher sous le tapis. Les réseaux pédocriminels, les tueurs, les violeurs en série, etc. Là, quand même, la société est obligée de révéler et de condamner. On condamne et surtout on dit « ce sont des monstres ». On trouve un truc pour dire qu'ils ne sont pas normaux. On pathologise, il est malade donc il n'est pas comme nous. On classise, il ne fait pas partie de notre monde, il est isolé, il est pauvre, il n'est pas comme nous. Bon, bah, c'était facile avec Dutroux parce qu'il était belge.
Nos amis belges,
j'ai mieux. L'affaire d'Outreau, bah c'est facile, c'est des gens du Nord. C'est pas nous. Sauf que tout à coup, l'actualité débarque et c'est pas du tout pratique. On va être obligé de réfléchir. L'abbé Pierre, on va le fourguer où dans cette configuration-là ? On peut pas passer de la figure de saint à la figure du monstre comme ça, dans notre cerveau, ça ne fonctionne pas. L'abbé Pierre, on est mal, on sait pas le caser. Dire que c'est un monstre, on ne peut pas. Dire que c'est un fou, on ne peut pas. Qu'il est sociopathe, on ne peut pas. On ne peut pas dire non plus que c'est un pervers, puisque dans notre société, on se représente le pervers avec un impair qui fait la sortie des écoles. Donc comment on va traiter cette information ? Je pense que notre cerveau arrive à saturation, on n'arrive pas à le traiter, on n'est pas préparé, parce que pour être préparé, il faudrait qu'on ait acquis l'idée que les violences sexuelles sont partout. Et qu'un homme en situation de domination, comme l'était l'abbé Pierre, peut profiter de la vulnérabilité de sa position de dominant pour avoir des comportements, des demandes en matière sexuelle par rapport aux femmes qu'il domine, et que ceux qui savent peuvent étouffer le problème. Bah, cette idée-là, il va falloir qu'elle passe parce que c'est la réalité. Et c'est bien ce que MeToo dit depuis des années. Mais sur l'abbé Pierre, j'ai l'impression qu'il y a eu un effarement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai vu et lu très peu de choses sur cette histoire. Peut-être qu'en fait, tout le monde est saturé de dégoût, sans doute, et de peine, sûrement. Et puis bah, après, il y a le procès Mazan, qui nous donne tout, tout à voir et tout à comprendre. Il donne des éléments de réponse à la question « qu'est-ce qu'un monstre ?» Bah, un monstre, c'est personne, en fait. La figure de monstre, elle n'existe pas. Bah non, ce sont des hommes ordinaires. J'ai eu l'impression que cette fois, les médias ont joué le jeu de « ce sont des hommes ordinaires » et ils ont cherché à casser l'image du monstre pour servir la cause féministe. En vrai, il n'y a pas eu cette fois de diabolisation des personnes, il y a bien une banalisation. Et ça me semble être une première dans le traitement médiatique de masse d'un tel événement et ça mérite d'être noté. L'analyse féministe qui sous-tend cette actualité est bien de dire qu'il n'y a pas seulement des hommes monstrueux qui déraperaient, mais bien un système de domination qui permet à chacun, en fonction de ses opportunités, de le devenir. Bah alors là, par contre, il n'y a pas eu trop de politique pour s'emparer du sujet. Hein. Autant on s'est vite empressé de défendre Gérard Depardieu, autant là, pas de son, pas d'image. Petit aparté, vous avez déjà réfléchi à cette expression qu'on entend souvent quand on parle de lui, de Depardieu ? C'est un monstre sacré du cinéma français. C'est fou cette obligation d'admiration. Monstre, sacré ? Bah non, en fait, c'est un monstre, hein, c'est tout. Bon, j'en reviens à Mazan. En tout cas, pas de prise de parole sur un procès nommé quand même par les médias comme historique. Bizarre, bizarre non, sans doute, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient dire, ces pauvres petits chéris. Heureusement, un fait divers en chasse un autre, et heureusement, Philippine est morte. Philippine, c'est la 100e et quelques femme qui s'est faite tuer par un homme parce qu'elle était une femme. Oui, c'est choquant ce que j'ai dit, heureusement. Bah, en fait, pas plus que ce que la classe politique, sa famille et certains journalistes en ont fait ce meurtre. Un bon petit racolage à droite. Elle avait la bonne couleur et le meurtrier aussi avait la bonne couleur. Encore une femme instrumentalisée. C'est la routine, hein, mais c'est quand même toujours aussi dégueulasse. Surtout quand c'est son meurtre qu'on instrumentalise. Donc la classe politique a pu s'emparer du sujet pour déverser son idéologie de haine et les médias ont retrouvé leur bonne vieille figure de monstre. Bah oui, parce que là, ces derniers temps, tout était parti en couille, si j'ose dire. Avec l'abbé Pierre, Mazan, on ne savait plus de qui de quoi, on ne savait plus dire qui était fautif, qui était dangereux. Et là, ouf, on est rassuré, le dangereux, bah, c'est un migrant, c'est un immigré, un arabe, un OQTF, hein, j'ai entendu ça. Oui, parce que c'est devenu une identité, a priori. Oh.
Obligation de quitter le territoire.
Français.
Ouais. Français. Mais ça, ça fait une bonne figure de monstre, ça, parce que du coup, c'est pas nous. Mais oui, c'est bien un arabe qui tue nos femmes. Elle a été tuée par un monstre, puisqu'elle a été tuée par un étranger. Et là, tout le monde est ravi. Tout le monde est rassuré. Le monstre existe bel et bien. Il a l'apparence d'un étranger. C'est pas nous. Tout le monde peut retourner dans sa petite chaumière et dans son petit confort. On a bien identifié qui était le monstre. Donc on peut maintenant s'en préserver et s'en protéger. J'ai envie de dire, tout est bien, qui finit bien, comme dans les contes de fées.
Ah, tu finis là-dessus?
J'aime que tout soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime que les femmes n'avortent pas. J'aime
Ingrid, franchement, t'écris vraiment bien. Tu fais passer des idées. C'est beau, c'est propre. Enfin, moi, ça me plaît. Hein.
Ah,
bien
c'est drôle, on s'est marré.
Non, pas trop.
Un peu quand même. Hein.
Oui.
La chanson, elle est très, très bien derrière, il faut dire aussi. Hein.
Oui.
Et alors, vous, les filles, vous aimez votre pays ou pas?
Moi, juste, je voulais dire pour Ingrid que les auditeurs n'ont pas le visuel, mais quand Ingrid fait une blague au milieu d'un truc hyper sérieux, elle fait une pause.
Ouais.
Elle nous regarde et clairement, on sait que c'est là qu'il faut qu'on rigole. Mais alors,
ah, moi, j'ai pas vu la pause, mais j'ai ri quand même.
Elle instrumentalise nos rires.
C'est ça. En tout cas, moi, j'adore quand tu mets des phrases, des idées, des concepts sur le boogie-boulga de mes pensées. Parce que tout ça, j'aurais pas pu le sortir aussi bien que toi, mais.
Moi non plus.
Mais voilà.
C'est
merci.
Clair.
Oh, c'est chouette. C'est chouette. Et toi, Morgane, t'aimes ton pays?
Oui, j'adore.
Ouais.
Elle est fonctionnaire. Elle est obligée.
Oui, je suis fonctionnaire de l'État.
Ouais. Ouais.
Hashtag pas de vague. Pardon.
Et tout à l'heure, tu nous as dit que tu allais nous parler
de femme badass.
Femme badass. Tu veux parler de nous?
T'as tourné un film?
Ah ouais, peut-être prochainement. Ah. Avec mon mari.
Peut-être à ton insu.
C'est faux.
C'est la mode apparemment.
Oh mon Dieu, c'est sale. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton film de femme badass?
Donc c'est rigolo parce que je passe après Ingrid et enfin voilà, vous allez voir. Donc j'aurais pu vous parler d'un groupe de musique que j'adore, vous faire écouter des sons bien puissants, mais à l'heure où de nouvelles affaires médiatisées, telles que l'affaire Pellico, celle de l'abbé Pierre, ah vous voyez le lien, c'est
ouais,
marrant,
wow,
ça nous a marqué je crois.
Bah, on est tous inspirés par
ça. Tout ça,
normal.
Ça met en émoi la France entière, donc j'ai choisi de mettre à l'honneur un film symbole de liberté et porte-drapeau du féminisme. Est-ce que vous connaissez le film Thelma et Louise?
Mais oui, bien oui sûr.
Bon, je crois Ingrid que tu ne l'as pas vu. Donc je suis navrée, je vais tout divulguer. Voilà, t'es seule.
On fera une soirée
t'as
cinéma.
De oui, pas l'avoir c'est, pas vu.
C'est magique, ce film, il est fou.
Donc le film est sorti en 1991. Le scénario, sachez-le, il a été écrit, même à cette époque-là, par une femme, Kali Khoury.
Wow.
Donc en fait, Ridley Scott, le producteur de ce film, il a dû réaliser lui-même le film car il n'y avait aucun volontaire. Voilà, faut s'imaginer, hein, 30 ans avant, c'était trop éloigné des films produits à l'époque et considéré comme un chic flic. C'est un film pour gonzesses.
Ah.
Ouais. Donc Thelma et Louise sont toutes les deux éprises de liberté car enfermées chacune de leur côté dans une vie qui ne leur convient pas. Donc Thelma Dickinson est une femme un peu naïve, malheureuse, l'épouse au foyer frustrée et soumise de Daryl, le macho fier de sa réussite professionnelle. Donc Thelma est jouée par Gina Davis. Louise Sawyer, jouée par Susan Sarandon, son amie, est serveuse dans une cafétéria. Elle est en couple avec Jimmy, un homme plutôt absent mais très amoureux d'elle. Donc Louise convainc son amie de s'évader pour le week-end à la montagne vers l'ouest. Elles veulent enfin penser à elle. Qui n'a jamais rêvé de voyager sur la route 66 dans une décapotable, les cheveux au vent, hein,
ça donne envie, fait rêver hein.
Ouais, mais visiblement, tout cela a un prix. Alors très vite, au début du film, ça tourne très mal, car un homme tente de violer Thelma sur un parking de boîte de nuit. Eh ben oui, nous y voilà. Louise le voit, sauve son amie, mais finit quand même par tuer l'homme. Elle convainc Thelma de ne pas appeler la police car de toute façon, on le sait, personne ne va les croire. Thelma a dansé avec son agresseur et la police et la justice sont sexistes, c'est connu.
Ah bon ?
Eh bien oui. Alors, leur road trip se transforme en cavale et elle décide de partir, de rejoindre le Mexique. Ce qui est dingue, c'est la polémique que ce film a suscité à sa sortie. Les hommes ont crié à la misandrie, à l'apologie de la violence. Les mêmes personnes qui ont censé Scorsese, Tarantino ou Oliver Stone ont trouvé insupportable un film où ce sont les femmes qui sont violentes. Ça n'aurait sans doute gêné personne que ce soit un homme qui tue le violeur. Bah non, la violence est une prérogative masculine. On reproche au rôle de Harvey Keitel, l'enquêteur Hal, d'être trop empathique face à la violence des fugitives. En tout cas, c'est cet acte de domination des hommes sur les femmes, le viol, qui fait basculer Thelma et Louise. Elles vont croiser tout un tas de malades ou de connards, enfin vous pouvez donner le mot que vous voulez, durant leur périple. Des monstres.
Exactement.
Bah voilà, mais oui. des profiteurs, des misogynes, un camionneur obscène et harceleur, un petit voleur autostoppeur, interprété, oui, par Brad Pitt.
Oh, ils sont sexy, you know.
Brad Pitt, voilà. Jeune. Petite Brad parenthèse, Pitt, jeune. Hein, le film a lancé la carrière de Brad Pitt.
Brad Pitt des années 1991.
Eh oui, oui, oui.
C'est lui le petit violeur.
Non, c'est l'autostoppeur.
C'est le voleur, lui, non?
Le voleur, oui. Thelma trébuche sur lui en sortant d'une cabine téléphonique, et voilà, coup de foudre. En tout cas, ils passent la nuit ensemble. Et lui, il se casse avec l'argent mis de côté par les deux amis. Voilà, il est gentil, Brad. Mmh. Alors, tout au long du film, on les voit évoluer pour reprendre le contrôle de leur vie. En s'affranchissant, elles découvrent leur potentiel sexuel, leur force physique, leur talent à la gâchette. Seules, libérées de la performance du genre, elles sont de moins en moins féminines dans leur façon de s'habiller, elles ne se maquillent plus. En fait, loin des hommes, en désobéissant à la loi et aux règles, elles sont libérées de la société étouffante, elles sont redevenues elles-mêmes. Une fois qu'on s'est libéré, on ne peut plus revenir en arrière, c'est fini. Donc Thelma dit même dans une scène qu'elle ne le supporterait pas, c'est la liberté ou la mort.
Je vais te dire, il y a eu comme un déclic qui s'est fait en moi. Et là, ça bloque. Demi-tour, c'est infaisable. Je sais. Je te suis très bien. De toute façon, on va pas se retrouver vieille dame dans un débat télévisé. Non.
Elles vont ensuite braquer une supérette, car elles n'ont plus d'argent, forcément. Elles tirent sur le camion du mec dégueulasse, elles enferment un flic dans le coffre de la voiture. Malgré tout, l'enquêteur de la police, Al, tente bien, par plusieurs stratagèmes, de leur faire changer d'avis et de se rendre. On apprend au cours du film que Louise a subi un viol au Texas. L'enquêteur cherche à les protéger, car ceci constitue une circonstance atténuante pour le crime commis. Bon, elles savent donc que la police va bientôt les attraper, qu'elles seront punies. La fin est tragique, après une course-poursuite d'anthologie, tout un commando les poursuit, hélicoptères, voitures, des mecs armés jusqu'aux dents, des snipers. Elles finissent leur course devant le Grand Canyon, le film ralentit, il faut prendre une décision. Thelma propose donc qu'elles continuent leur route. Elles décident d'en finir ensemble avec ce système patriarcal et traumatisant. Elles choisissent de rester ensemble dans la mort plutôt que de rester en vie séparées. Elles s'embrassent et se tiennent la main, souriantes, tandis que Louise appuie sur l'accélérateur, leur photo s'envole tel un oiseau trouvant la liberté. Alors que Al les poursuit désespérément à pied, elles accélèrent vers la falaise, vers une mort certaine. Un geste libérateur pour elles qui semble dire « Nous ne serons plus les victimes de l'oppression masculine ». Elles auront doublement transgressé la justice des hommes en se faisant justice elles-mêmes et ensuite en choisissant elles-mêmes leur fin. Une fin tragique comme si de telles femmes ne pouvaient pas exister dans notre monde. De nombreux fans, aujourd'hui, pensent qu'elles sont encore en vie.
Mais oui.
Un slogan est né, Thelma and Louise live forever. Le succès du film a montré au public que les rôles féminins pouvaient rivaliser avec tous les rôles masculins et on connaît tous les films où, tenus enfin, avec un rôle principal par une femme. Donc moi, j'ai vu ce film quand j'étais adolescente. Je l'ai forcément aimé, car il est beau, les paysages sont magnifiques. La musique de Hans Zimmer, que vous avez pu entendre un petit peu tout à l'heure, accompagne les silences et les dialogues avec justesse. Et il montrait que des femmes pouvaient avoir du caractère et sortir du carcan femme au foyer, soumise aux volontés du mari. Il ouvrait la voie à un nouveau type de film qui repoussait les limites déjà existantes. La vision et la version du féminisme présentée dans ce film met l'accent sur l'amitié, l'amour, l'unité entre les femmes, autant que sur une réponse contre les hommes qui les ont maltraitées et opprimées. Et petite parenthèse, ces personnages de Thelma et Louise sont bien réels en fait, elles ont semé le chaos partout où elles sont allées. Tout d'abord, Rosemary Turford et Joyce Caroline Stevens ont volé au moins $250,000 à 10 hommes. Ensuite, après avoir été arrêtées et libérées sous caution, elles ont semé le chaos en se déguisant en religieuses et en stripteaseuses. Voilà. Ce film a obtenu l'Oscar du meilleur scénario en 92, donc c'était vraiment super parce que voilà, c'était écrit par une femme et puis aujourd'hui, il est considéré comme un des films emblématiques du mouvement féministe. Pour me terminer, enfin voilà, et Thelma et Louise pour vous, alors elles sont badass ou pas?
Oh là,
grave,
oui.
Badass.
Ouais.
Moi j'étais ado comme toi et j'avais pas tout ce sens, je mettais aucun mot derrière, mais elle me faisait mais rêver quoi.
Bah ouais. Et ce qui est rigolo, il y a une anecdote, Ridley Scott en fait, il voulait filmer la réaction des deux comédiennes. En fait, quand elle tire sur le camion du camionneur dégueulasse, en fait, il fait des bruits avec sa langue là. Enfin,
ouais.
Il est horrible ce mec. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas radiophonique, mais bon. Bref.
Vous ne voyez pas Cécile.
Et tant mieux.
Mais voilà, y a une explosion parce qu'elle tire super bien. Et donc, Ridley Scott, le réalisateur, a voulu filmer leur réaction et elle ne savait pas que ça allait exploser comme ça. Et en fait, elles sont tellement blasées, les filles, mais il n'y a eu aucune réaction. Tellement badass, les comédiennes. Donc, ils ont dû retourner la scène et feinter, quoi. Voilà, enfin, bon, bref. Bon, pour terminer, je vous invite à écouter la chanson The Ballad of Lucy Jordan de Chelle Silverstein, qui a été reprise par Marianne Faithfull, qui en fait un hymne féministe. C'est la chronique d'un désespoir, car l'héroïne du titre rêvait d'une autre vie que celle d'une femme au foyer en banlieue.
Thelma et Louise, franchement, ce film, allez le revoir, quoi.
Bah, revoyez-le, bah,
ouais,
revoyez-le.
Entre copines.
Entre copines, on se fait un truc, là.
Bah, on organise un apéro.
Ouais.
Dans mon salon.
Ouais.
On s'est rebattu.
Carrément, rendez-vous chez Steph.
Et puis, non, mais je pense que c'est une bonne idée de se revoir des films comme ça, je sais pas, entre copines, de se faire un apéro.
On peut proposer aux auditrices de toutes faire ça.
Dans mon salon, non.
Dans leur salon.
Dans leur salon.
Leur groupe de copines.
Carrément.
Un apéro. Et Thelma et Louise.
Et aux mecs aussi, s'ils ont envie de revoir Thelma et Louise, c'est une bonne idée, hein. Je pense peut-être.
Bien sûr.
Voilà. moi, j'en profite pour dire aussi que si jamais vous avez envie de sortir de votre salon, il y a quand même une projection collective qui va se faire au 6 par 4 le samedi 19 octobre. Alors, c'est pas qu'une projection, c'est toute une journée. Le 19 octobre, avec le 6 par 4, est organisé un temps fort égalité de genre. Avec, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plusieurs ateliers. Hein. Il y a des ateliers initiation aux techniques de la radio, qui sera fait par l'autre radio.
Wow.
Où vous pouvez vous inscrire sur le site du 6 par 4. Puis il y a aussi un atelier labo musical par Edabel Abyss et Salim Bendala. Et un atelier découverte du Jing par les collectifs AKRP et Total Chat qu'on connaît ici, hein, on les connaît un peu, on les a déjà reçus. Donc durant toute la journée, il y a des ateliers d'initiation donc uniquement ouvertes aux femmes, aux personnes trans ou aux personnes non binaires. Donc voilà, et cette journée, elle se clôture à 19h30 par une émission spéciale des sorcières, donc en direct à l'avant-scène. Donc moi j'y serai avec Priscilla et Caro.
Cool.
Et puis peut-être Anna parce qu'elle n'avait pas la date, mais je crois bien qu'elle sera là. Et puis surtout à 20h30 il y a, c'est à l'avant-scène parce qu'à 20h30 il y a la suite du documentaire sur la cantatrice Chaume. Elle avait été diffusée l'année dernière, justement au 6 par 4, hein, vous vous en souvenez, oui. Morgane, Anna, où on parlait de
c'était
la place des artistes et l'égalité hommes-femmes dans les musiques actuelles.
Et là, c'est plutôt les techniciens, je crois.
Là, c'est le côté des professionnels.
Ouais.
Donc, il y a les techniciennes, mais il y a aussi les programmeuses, les directrices de salles de musique actuelles. Ça
va être chouette.
Ouais, et ce sera suivi.
Le premier épisode était très, très chouette.
Oui. Le premier épisode était vraiment bien fait. Et voilà, et ça donne des clés. Et on croyait que les musiques actuelles étaient mixtes. En fait, non. Regardez vos dernières affiches de festival et comptez combien il y a de femmes artistes qui ont le lead ou qui ont le lead sur ça. Voilà, donc je pense que ça va être une belle soirée, pas parce qu'on y participe, mais aussi parce que le 6 par 4 a organisé quand même un gros, gros temps fort sur les égalités de genre. Voilà.
Cool. Bah, c'est super, tu as commencé avec ce moment pour les... C'est le moment des petites annonces, quoi, si j'ai bien compris, Stéphanie. Alors, c'est génial. Tiens, j'en profite. Là, moi, je suis à la recherche de Jean Talu pour ma Renault 21. Et ça, c'est les petites annonces. Et sinon, je vends une portée de lapin nain croisé avec des hamsters. Voilà.
Parce que tu veux pas les tuer.
Non, je veux pas les tuer. Okay. Voilà, il n'y a pas de taliban à la maison. Personne ne les tuera. Et donc, on continue les petites annonces. Alors, dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre donc, Aurélie Garabello, qui est militante, met en place un projet autour de cette thématique. Entre expo de culture, de sculpture, voilà, danse contemporaine, graphes, etc., elle fait un appel à témoignages anonymes de femmes qui ont vécu des violences. Alors, chères auditrices, si vous souhaitez témoigner de manière anonyme, bien, envoyez votre témoignage d'une page, une page à quatre, à l'adresse suivante, contact@l'autreradio.fr. Donc, l'autre radio récoltera les témoignages que nous ferons suivre à Aurélie. Et donc, ces témoignages seront lus par une comédienne, Sandrine Manceau, lors de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous retrouverez toutes les coordonnées sous le lien du podcast Sorcière. Voilà.
Donc elle, cette artiste va mettre en scène un peu, va les lire et mettre un peu en scène les témoignages.
Bah, elle va surtout les lire, mais la mise en scène, elle ne sera pas sur ces témoignages précisément, mais sur une artiste chorégraphe qui elle-même a vécu des violences.
Okay.
Et elle va mettre ça en scène, c'est une artiste chinoise de mémoire. Et tout ça, ça va se mettre en place. En tout cas, c'est un beau projet. Même la mairie de Laval va y participer, puisqu'il y aura des sculptures au sein de la mairie. Il y en aura peut-être dans le hall de l'hôpital. Donc, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Donc, nous, on serait heureux de participer avec l'autre radio, de mettre notre pierre à l'édifice. Donc, si jamais vous voulez nous écrire, vraiment, n'hésitez pas. Et je rappelle qu'ils seront anonymes, ces témoignages. Vraiment anonymes. Voilà.
Et c'est quel jour ? Redis-nous.
Alors,
la journée,
c'est le 25 novembre. Mais il faut savoir, donc c'est un lundi, il faut savoir que la semaine précédente, il y aura des choses mises en place, et même si le temps fort est le lundi 25 novembre, puisque c'est la journée phare. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire.
Mes deuxièmes petites annonces, dernière information plus légère. Auditeur, auditeurie, si tu rêves de rencontrer en vrai tes sorcières préférées, deux d'entre elles font du stand-up.
Mais oui.
Comment on n'est pas très surpris, Priscilla et Cécile seront sur scène le mercredi 16 octobre à 20h au bar L'Atelier à Laval et le vendredi 18 octobre au Beauty Bar à 20h avec une entrée gratuite et une sortie au chapeau. Voilà, si vous voulez rire, vraiment allez-y.
Promo.
C'est une belle réclame que tu m'as fait là, Stéphanie.
Oui. Pas du tout préparée.
Pas du tout écrite.
Quelle impro.
Pas du tout écrite par quelqu'un d'autre, pas du tout.
Personne ne t'a forcé à la lire.
Non.
Il ne l'a écrite pour toi. Cécile, lâche-la. Arrête.
Je reconnais ton écriture, Cécile.
Waouh, génial. Moi, en tout cas, je suis tellement heureuse d'avoir animé cette première émission. Oh, j'ai l'impression de prendre l'accent québécois.
T'es tellement contente.
Céline, vous le faites bien mieux que moi en tout cas. Je suis super heureuse d'avoir animé cette première émission avec vous. C'était un vrai bonheur. Donc merci Anna à la chronique, à la technique. T'as fait ta chronique, ouais. C'était super.
On a parlé de femmes badass toute la soirée.
Merci Ingrid.
Merci. J'ai énormément de répartie, tu le sais bien. Donc,
oui,
je ne cherche pas à me faire parler.
Merci Morgane.
Mais pas de quoi, Cécile.
Et merci aussi Stéphanie d'avoir été témoin de ce passage de la flamme olympique. Je suis dans le thème.
Louane, on pense à toi.
Ouais. Yes, bah moi je suis ravie que tu aies pris en première le relais, Cécile. J'adore, je suis très contente d'avoir participé un peu en dilettante.
J'étais bien formée. Oh, quelle chance, c'était trop cool. Alors, chers auditeurs, auditrices, merci à vous pour votre fidélité. Et vos sorcières seront là le mois prochain, bien entendu. Mais qui va animer le mois prochain? Ce sera qui? Ce sera Anna, la reine des platines.
À la chronique, à l'animation.
C'est mort. Bon, vous excuserez la technicienne, elle sera moins bonne qu'aujourd'hui.
Morgane. En tout cas, merci à vous les filles. Et puis, vivement qu'on fasse la prochaine.
On va refaire la première.
On va réenregistrer ça ou quoi? Merci à vous. Grosse bise. Bye bye.
Bisous. Dieu crée les dinosaures. Dieu détruit les dinosaures. Dieu crée l'homme. L'homme détruit Dieu. L'homme crée les dinosaures.
Les dinosaures mangent l'homme. La femme hérite de la terre.